Amis, frères et sœurs, c'est une parole importante que vous allez recevoir aujourd'hui. Les cultes se commencent avec ces mots de l'annonce de la grâce et la paix vous sont donnés ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, notre Sauveur, son Fils et notre frère.
Bienvenue dans notre célébration de la Journée mondiale de prière des femmes. Peut-être une initiative que vous ne connaissez pas encore, mais vous verrez dès que vous connaîtrez, vous aurez l'évidence en tête qu'il faut le faire. Ça a été créé en 1887 par deux femmes protestantes aux États-Unis. Et cela existe en France depuis 1929. La devise de la JMP est « S'informer, prier, agir ». Chaque année, partout dans le monde, les femmes du monde entier se rassemblent par la prière avec les mots d'un comité, d'un pays particulier, et elles mènent des actions d'aide aux femmes du pays mis à l'honneur. L'an passé, c'était le Vanuatu, pour ceux qui étaient avec nous, qui organisait cette Journée mondiale de prière. Et cette année, nous recevons les chaleureuses salutations des femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord qui se sont associées pour nous envoyer leurs textes, leurs méditations, leur façon de lire la Bible et leurs prières. Trois nations qui, avec l'Écosse, forment le Royaume-Uni donc, et qui se sont mises ensemble pour préparer. Il y a énormément de comités JMP dans les pays anglo-saxons. Les femmes des comités JMP de ces pays donc, sont avec nous par la communion fraternelle et peut-être certaines nous regardent aujourd'hui, on ne sait jamais, et nous les saluons évidemment et nous les remercions de nous avoir envoyé leurs prières.
Nous voudrions saluer ici les femmes qui participent en France et avec l'Oratoire du Louvre à cette journée mondiale de prière. Et je voudrais aussi continuer cet accueil. Malgré l'incertitude dans leur place, sur leur place dans le monde, en particulier depuis le Brexit, ces femmes nous disent: nous nous réjouissons car même si les îles britanniques ont beaucoup en commun, leurs populations sont d'une grande diversité. Au fil des années, les îles britanniques ont accueilli des personnes du monde entier. Certaines ont fait le choix d'y venir, d'autres de s'y réfugier pour fuir, entre autres, la persécution dans leur propre pays. Aujourd'hui, notre pays est une société multi-ethnique, multiculturelle, multi-religieuse. L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont trois nations fières de leur diversité et attentives à préserver leurs différences linguistiques et culturelles. Nous nous réjouissons avec elles.
Dieu du passé, Dieu du présent, Dieu de l'avenir, nous te remercions car tu nous aimes fidèlement et comme toi seul le peux. Tu nous as aimés avant que nous ne connaissions quoi que ce soit de toi. Tu prends soin de nous à chaque moment de notre vie. Tu connais nos pensées les plus profondes, nos espoirs les plus fous et nos pires craintes. Tu connais ce que nous sommes pour le meilleur et pour le pire, et malgré tout, et tu nous aimes toujours. Merci car tu ne nous as jamais délaissés. Merci pour les promesses que tu as formulées pour nous, qui nous apportent l'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Dieu de notre passé, Dieu de notre présent, Dieu de notre avenir, reçois nos remerciements et nos louanges, nous te les offrons au nom de Jésus. Amen.
Nous vous invitons à prendre maintenant le psautier français. Dans le psautier français, nous prendrons le psaume 118, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et ainsi, nous poursuivrons notre louange. Et nous vous invitons à vous lever. Prenez place. Comme vous le constatez, aujourd'hui, la liturgie est légèrement changée. Et maintenant, nous allons nous plonger dans trois récits. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où nous sommes dans des situations loin de celles que nous aurions souhaitées. Parfois, comme les exilés de Babylone, nous ne voyons aucune issue et souhaitons ardemment que Dieu intervienne. Nous ne savons pas de quelle manière Dieu intervient. C'est souvent d'une façon inattendue et surprenante. Nous allons prendre connaissance de trois récits de vie qui sont aussi trois récits d'espérance. Ces récits nous viennent de Lina, Nathalie, Émilie, des femmes qui vivent au Royaume-Uni et qui ont vécu des situations difficiles, et nous verrons comment Dieu les a bénies de façon très inattendue. Alors, entre chaque témoignage, nous chanterons un cantique que vous avez reçu sur vos feuilles. Il s'intitule « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Alors voici ce que nous vous proposons. Nous allons chanter le refrain, deux strophes et le refrain entre chaque récit d'espérance. Parce qu'il y a six strophes et un refrain, donc voilà. Donc, pour comprendre ce que nous allons faire, nous allons laisser Aurélien Peter, qui nous accompagne musicalement aujourd'hui et que nous remercions. Eh bien, Aurélien va jouer tout une fois pour nous faire comprendre ce qui se passe, parce que ce n'est pas tout à fait notre habitude. Et ensuite, nous rentrerons dans les récits de vie et d'espérance.
Je m'appelle Lina. J'ai aidé mon fils à élever mes 4 petits-fils après que leur mère l'ait quitté. Mon fils se débat avec des soucis de santé mentale et n'est pas en mesure de travailler. Il a très peu d'argent à la maison, même pour les besoins les plus élémentaires. Parfois, je ne mangeais pas pour pouvoir acheter des aliments pour mon fils et les garçons. Il y a 5 ans, mes petits-fils ont participé à une activité organisée par ma paroisse locale et ils ont été chaleureusement accueillis. Depuis, ma paroisse est devenue notre famille élargie. Nous recevons régulièrement des dons de nourriture de la banque alimentaire paroissiale et des vêtements. Des vacances familiales ont même été organisées pour nous. Un des membres de la paroisse est enseignant à la retraite et le mercredi soir, mes petits-enfants bénéficient d'une aide aux devoirs. Grâce à l'amour de cette paroisse, nous avons trouvé un espace où nous nous sentons en sécurité. Les gens nous apportent leur amour et nous ne les décevrons pas. Je remercie Dieu pour la manière dont sa bénédiction pour nous a été mise en œuvre, nous donnant un avenir et une espérance grâce à ma paroisse locale.
Et nous chantons les 2 premières strophes de ce cantique.
Oh.
Quand je suis avec lui, ce n'est pas forcément de la peur que je ressens. C'est plutôt un malaise, comme si je marchais sur des œufs, sans savoir vraiment quelle sera sa prochaine action, ni ce qu'il va exiger que je fasse. Son indifférence envers moi me fait mal. Sa méchanceté me fait me recroqueviller de l'intérieur. Je suis constamment sur le qui-vive à cause de ses menaces. Il utilise Dieu comme une arme pour me contrôler. Je ne suis que l'enveloppe de ce que j'étais avant. Alors que j'étais enceinte, il m'a fait mal au point que mon bébé est né avant terme. Durant les journées passées à l'hôpital, sans savoir si mon enfant allait survivre ou non, j'ai ressenti que Dieu me parlait. Arrête de prier pour que ton enfant vive, prie plutôt pour que ma volonté soit faite. J'ai dit oui à Dieu, qui m'offrait seulement sa présence, sans promesse que tout irait bien. Et malgré tout, mon bébé a maintenant 13 ans, il est heureux et en bonne santé. La vie a été remplie de plus de joie et de beauté que je n'aurais cru possible, et je suis libérée de l'homme qui me maltraitait si terriblement. Je n'ai plus peur, Dieu a été là pour moi.
Je m'appelle Émilie. Je vais des projets pour ma vie. J'avais prévu d'aller à l'université, de devenir enseignante. Mais à 16 ans, le diagnostic est tombé. Tumeur au cerveau. De nombreuses opérations ont suivi. L'une m'a sauvé la vie et je suis devenue sourde. J'étais terrifiée dans mon monde de silence. Tous mes rêves d'une carrière dans l'enseignement se sont évanouis. En regardant les lèvres des gens, je me débattais pour comprendre ce qu'ils me disaient. Je me débattais aussi pour comprendre le langage des signes. Je me sentais prise en étau entre le monde des sons et le monde du silence. Ma place n'était ni dans l'un ni dans l'autre. Je me suis retrouvée très isolée et je me suis repliée sur moi-même. Je voulais mettre fin à mes jours, mais Dieu avait sans doute d'autres projets. Quand j'ai commencé à accepter que mes rêves ne se concrétiseraient pas, j'ai demandé à Dieu d'utiliser ma vie pour sa gloire. Il a alors petit à petit dévoilé ses projets. J'ai compris que je devais lui faire confiance, même si parfois j'ai encore du mal à comprendre ce que me disent les gens. Je me débrouille mieux maintenant pour lire sur les lèvres et pour communiquer par le langage des signes. Je sais que, quelles que soient les difficultés que je traverse, Dieu murmure sa paix et son amour dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin d'être entendante pour reconnaître son murmure.
Prenez place. Nous écouterons maintenant dans le Premier Testament, au livre de Jérémie, chapitre 29, les versets 1 à 14. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à tous les anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout entier que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone, après que le roi Yéconia, la reine mère, le personnel de la cour, les hauts fonctionnaires de Juda et de Jérusalem, les techniciens et les officiers du génie eurent quitté Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez femme, ayez des garçons et des filles. Occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles. Là-bas, soyez prolifiques, ne déclinez pas. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux songes que vous avez. C'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez. Vous ferez des pèlerinages. Vous m'adresserez vos prières et moi, je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même et je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je vous restaurerai, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés, oracle du Seigneur, et je vous ramènerai à l'endroit d'où je vous ai déportés.
Nous prions ensemble. Éternel, éclaire-nous. Au moment où nous entendons ces paroles du prophète Jérémie, cette lettre écrite pour appeler à la vie, appelle-nous toi aussi dans nos vies à ouvrir cet avenir que tu nous promets. Amen. Merci Aurélien pour cette variation sur le psaume 137, à Babylone, au bord du fleuve. Les femmes du Royaume-Uni qui nous ont envoyé leurs prières et leurs témoignages pour cette édition 2022 de la Journée mondiale de prière des femmes ont choisi le thème de l'exil. Au moment où elles écrivaient leurs prières et où elles choisissaient le texte biblique de leur célébration, elles ne se doutaient pas, sans doute, que l'Europe se trouverait dans une situation telle que plus de 2 millions de personnes seraient déplacées de guerre en provenance d'Ukraine. Ce thème de l'exil recouvre des réalités très différentes selon la situation de ceux qui se disent exilés. En effet, si l'exil est toujours la situation d'une personne à vivre forcée de vivre hors du lieu où elle vivait auparavant, chaque exilé n'est pas contraint par les mêmes forces, et la situation d'un exil dans le lieu où il arrive, d'un exilé dans le lieu où il arrive, change beaucoup en fonction de la raison qui l'a poussé à l'exil. L'opposant politique, la victime de guerre, le déporté ou la victime économique ne partent pas avec la même histoire en exil. Et la suite de leur vie sera donc plus ou moins difficile à construire selon la situation qui les a poussés loin de chez eux. Jérémie nous parle des exilés qui ont été déportés à Babylone. Cette déportation qui concerne une élite juive, on le voit dans le texte, n'a rien à voir avec les déportations qui toucheront le peuple juif dans la suite de son histoire. Ici, il s'agit d'exiler les élites d'un pays pour qu'elles ne puissent pas organiser la résistance à l'ennemi sur le territoire, et qu'elles puissent en revanche apporter ses savoirs et ses savoir-faire dans le pays de l'ennemi. Ici, on emmène des ingénieurs avec les dirigeants politiques pour que Babylone puisse gagner du pouvoir sur ceux qui restent sur le territoire d'Israël. Et on peut ainsi bénéficier de l'expertise de ces ingénieurs pour les chantiers de Babylone. Si l'exil signifie être forcé de vivre hors d'un lieu, comme sa patrie par exemple, il est des exils dans lesquels on reste pourtant sur place. C'est le cas de ce que les femmes du Royaume-Uni ont vécu avec le Brexit, et elles nous en ont parlé dans les documents qu'elles nous ont envoyés. Elles n'ont pas été forcées à quitter l'Angleterre, mais elles ont dû quitter une communauté qui comptait pour beaucoup d'entre elles, l'Union européenne. Sans bouger géographiquement, la situation de celles et de ceux qui n'ont pas voté pour la sortie de l'Union européenne a profondément changé. Il s'agit d'un départ forcé pour ceux qui n'étaient pas d'accord, d'un exil. Les femmes ont écrit dans le dossier qu'elles nous ont envoyé « Depuis que le Royaume-Uni a voté la sortie de l'Union européenne, il règne une incertitude quant à sa place dans le monde d'aujourd'hui. » En effet, qui sont ses amis, ses alliés? Par rapport à quel pays se déterminer? Jérémie est un de ces exilés restés sur place, lui aussi. Un exilé de l'intérieur, comme on pourrait l'appeler. Il n'a pas été emmené avec l'élite du pays et il reste sous le joug de Babylone, mais à Jérusalem, dans sa ville. Il n'est donc pas déplacé, déporté ou exilé au sens propre, et pourtant, il n'habite plus tout à fait son pays et sa terre depuis que Babylone a mis la main sur sa patrie. Suite à la guerre en Ukraine, l'arrivée des personnes venant d'Ukraine a révélé une incroyable générosité de la part des personnes vivant en France et qui veulent les aider. Mais cet élan a vite été nuancé par des facteurs humains avec lesquels il a fallu composer. D'abord, ceux qu'on appelle les réfugiés ukrainiens ne veulent pas qu'on les appelle réfugiés. Et beaucoup qui sont arrivés dans les centres de refuge que nous avons ouverts ne sont pas d'accord pour cette appellation. Ils veulent qu'on dise déplacés de guerre. D'autre part, tous ceux qui sont déplacés de guerre en provenance d'Ukraine, et nous nous en sommes aperçus tout de suite, ne sont pas des Ukrainiens. Et certains étaient immigrés en Ukraine de nationalité pakistanaise, marocaine, libanaise ou autre, et avaient reconstruit une vie là-bas, en se mariant, en ayant des enfants, ou en allant à l'université comme étudiants, dans des programmes prévus pour cela. Alors aujourd'hui, sont-ils des exilés ukrainiens ou bien des immigrés? Et des immigrés de quel pays? Des déplacés de guerre, mais avec quel statut? Sans doute sont-ils tout cela à la fois, mais pas de la même façon selon qu'on se place du point de vue de la loi européenne ou du point de vue de leur attachement affectif à un pays, à une terre, à une population, à une culture. Ainsi, il a fallu que les associations qui aident au refuge des personnes venant d'Ukraine insistent pour les faire bénéficier d'un statut identique à celui dont bénéficiaient les personnes ayant la nationalité ukrainienne. Et ça n'a pas été facile et ce n'est pas encore tout à fait gagné selon la façon qu'on a de comprendre le droit. Plus difficile et plus sordide encore est l'autre révélation qui nous a été livrée par cette crise. Nous avons relayé l'appel à l'hébergement citoyen. Peut-être certains étaient-ils là le soir de la veillée de prière pour l'Ukraine et nous avons donc lancé un appel au nom du CASP et de la FEP. Si beaucoup l'ont entendu comme une aide humaniste, évidemment, d'autres ont précisé, quand on les a rappelés pour leur dire que oui, ils pouvaient commencer cet accueil, qu'ils ne voulaient que des réfugiés ukrainiens correspondant à leur idée de l'Ukraine, en fait, c'est-à-dire des Ukrainiens blancs, des gens qui leur ressemblent et vers qui ils pouvaient se projeter. D'autres aussi ont vu là une occasion de rencontrer de jolies jeunes ukrainiennes blondes aux yeux bleus et qu'ils avaient très envie d'héberger chez eux. Alors de là à imaginer le pire pour les accueillis, il n'y a qu'un pas. Et il a fallu là aussi revoir la façon d'organiser cet accueil citoyen pour être sûr que nous n'allions pas ajouter à la situation déjà terrible des déplacés, la situation d'un esclavage ou bien d'un rejet, d'une discrimination. La vigilance est donc de mise et au milieu du bon grain de l'altruisme se glisse toujours quelque ivraie qu'il convient de repérer pour ne pas devoir déplorer d'avoir été complice de quelques misères supplémentaires infligées à des personnes qui ont déjà été assez traumatisées en arrivant en France pour qu'on ne leur inflige pas le racisme ou l'esclavage. Et ces cas ne sont pas isolés. En filigrane, derrière la question de l'exil et du statut des personnes se pose donc toujours celle de la légitimité à espérer un avenir. Que peut-on espérer quand on a perdu tout repère, quand on est à la merci des autres pour pouvoir continuer sa vie, qu'on a été obligé de tout perdre, tout laisser, et que ce sont d'autres personnes qui vous prennent en charge alors que vous êtes habitué à l'autonomie? Comment ne pas laisser l'exil briser ce qu'on a construit, ce qu'on a de plus cher? Comment vivre un nouvel attachement à un lieu, à une société, à une culture, quand on est tellement arraché à sa première culture ? Le penchant le plus évident n'est-il pas de vouloir emporter son pays avec soi, son histoire, et ainsi se refaire une bulle identitaire là où on a été forcé de s'installer ? Parler sa langue entre ressortissants du même pays ? Prier selon le rite de son église d'origine, manger les plats de sa culture culinaire, rester entre soi. Tout cela montre que le corps et l'esprit sont pétris du pays où l'on a grandi. Comment rester fidèle à son passé et continuer à vivre et à avancer quand on est exilé ? La position du prophète Jérémie sur l'exil est originale dans le paysage biblique parce qu'elle est favorable, étrangement, à la culture de l'ennemi, si l'on lit le texte ainsi. Il n'écrit pas à l'élite qui est exilée à Babylone : « Rejetez la culture de ceux qui vous ont exilés, restez entre vous, ne donnez rien à ceux qui vivent avec vous et qui sont du camp de l'envahisseur. » Non, Jérémie, au contraire, écrit cette chose étrange : « Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez femme, ayez des garçons et des filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles. Là-bas, soyez prolifiques, ne déclinez pas, soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. » Il s'érige contre les faux prophètes qui annoncent la fin de l'exil dans à peu près 2 ans, on le voit dans le chapitre qui précède le texte. Il condamne ceux qui donnent de faux espoirs et essaient d'installer les exilés dans une sorte de zone de transit où rien ne peut se construire puisqu'on y vit avec l'idée qu'on en repartira très vite. Être ici sans y être, voilà l'erreur selon Jérémie. Il ne faut se faire aucune illusion, le temps de l'exil sera long d'après lui. Et si l'on ne vit pas, dès maintenant, en fabriquant l'avenir, en mettant au monde des descendants, en préparant les générations futures, alors le temps passera et les enfants d'Israël disparaîtront pour avoir été simplement dans l'attente. Le message de Jérémie à ceux qui sont en exil est clair. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Ce calcul tout à fait utilitariste met au passage l'exil dans les mains du Seigneur, si l'on entend bien. D'après Jérémie, Dieu est le Dieu de l'univers, il a donc aussi fait l'exil. Pour lui, il est le maître de tout. Voilà la foi de Jérémie. Il y a donc quelque chose à apprendre de cette situation, quelque chose à faire pour l'avenir avec le Dieu de la vie. Au cœur même de l'expérience du déracinement, la théologie de Jérémie défend l'existence d'un plan de Dieu pour chacun, d'un avenir, alors même que tout semble bouché. La résilience de Jérémie a de quoi troubler ceux qui vivent l'exil comme une calamité. Mais c'est un Dieu de la vie que prône Jérémie. Un Dieu qui ne veut pas d'un peuple sclérosé, qui ne prospère plus. Son peuple est son honneur à ce Dieu, et il faut qu'il vive. Cette résilience nous dit quelque chose d'essentiel sur notre propre exil. Nous devons nous dégager de tout ce qui pourrait nous attacher, nous empêcher d'avancer. Nous devons nous engager sur des terres que nous n'avons pas toujours choisies, et nous engager dans la vie quoi qu'il arrive, quel que soit le lieu où nous sommes. quel que soit le lieu que nous n'avons pas choisi. Rien n'oblige à penser que Dieu exile les hommes. Mais cette foi en Dieu qui ne laisse aucun de nous sans possibilité d'avenir vivable doit animer celui qui accueille comme celui qui est exilé. La durée de l'exil est toujours a priori inconnue. Pour celui qui est exilé, c'est une question de survie, de s'engager complètement dans l'avenir. Et pour celui qui accueille l'exilé, c'est la condition pour qu'il accueille vraiment. Penser que l'exil sera long permet de penser, même si c'est d'abord désespérant pour ceux qui veulent rentrer chez eux, qu'une vie est possible là où ils ont été forcés d'arriver. Construire son avenir détourne du désespoir. Jérémie encourage donc ceux qui sont loin de chez eux à inventer la vie plutôt qu'à la subir, quelle que soit leur situation. Nos exils intérieurs ou nos désirs d'accueil, quel que soit l'un ou l'autre, souvenons-nous que le temps de Dieu ouvre à l'espérance d'un avenir, toujours, où que nous soyons. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 62b, « En toi, mon Dieu, toi seulement ». Nous prendrons les strophes. Alors, c'était 1, 2 et 4, normalement. Voilà, ça a changé sur les panneaux. Alors, nous chanterons 1, 2 et 4. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant avoir un moment d'annonce et d'offrande.
Merci à toi, Béatrice. Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, merci de vous être levé une heure plus tôt pour nous rejoindre. Également pour avoir assisté à cette journée mondiale de la prière qui n'était pas aujourd'hui, hein, qui était pendant les vacances scolaires, en pleine semaine. Donc nous avons songé que cela pouvait être intéressant pour tous de connaître ce mouvement de femmes qui est finalement assez peu connu et qui mérite d'être connu. Alors une des particularités de ce mouvement, ça n'est pas uniquement parce que ce sont des femmes, c'est qu'elles nous envoient aussi des recettes à partager. Tu l'as expliqué dans ta prédication, c'est aussi un moyen de partager son pays, de partager des recettes. Donc nous avons photocopié un certain nombre de recettes, mais surtout les conseillers de l'entraide, les conseillers presbytéraux et les scouts ont préparé quelques-unes de ces recettes. Donc à la sortie de ce culte, vous ne sortez pas par là, vous sortez du côté jardin, donc vous suivez les pasteurs qui vont sortir côté jardin, qui est très fleuri et ensoleillé, pour déguster quelques-unes de ces recettes des femmes du Royaume-Uni. C'est entièrement gratuit. Pour une fois, les scouts, et nous remercions l'entraide, vous savez que les scouts, et notamment aujourd'hui c'est la patrouille des aigles, cherchent de l'argent pour son matériel, etc. L'association de l'entraide va les financer, donc tout est absolument gratuit pour vous tous. S'il vous plaît, venez partager et déguster ces recettes après le culte. Et après, nous revenons à midi jusqu'à 13h pour écouter un autre partage, une transmission. Nous avons la chance d'avoir Karine Bouvatier-Sicard, qui va nous présenter son dernier ouvrage, Déporté, ultime transmission. Donc nous sommes vraiment dans le thème de l'exil, mais aussi du partage. Donc venez passer un bon moment, un quart d'heure, 10 minutes, déguster les recettes de ces femmes du Royaume-Uni, et nous revenons ici juste après. Et ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de convivialité. Nous en profitons. Nous profitons du jardin parce que malheureusement, l'épidémie repart en galopant. Donc c'est aussi pour ça que nous le faisons dehors. Voilà. Merci à vous. Je te laisse lancer l'offrande.
chers frères et sœurs, donner une part de ce que vous avez reçu vous-même, de ce que vous avez construit dans vos vies, pour que la parole du Seigneur puisse continuer à être partagée. C'est le moment de l'offrande.
Nous allons maintenant nous unir dans la liturgie de la Sainte Cène. Nous chanterons tout à l'heure le spontané qui s'intitule « Pare-toi pour une fête » que vous trouverez dans la liturgie située au début du psautier français. Louons Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
À l'époque de Jérémie, la population s'est trouvée en un lieu où il ne souhaitait pas vivre. Loin de sa patrie, exclu de sa culture et de ses célébrations religieuses, loin de son domicile. Nombreuses sont les personnes qui se sont installées dans les îles britanniques après avoir fui leur patrie et leur culture. Dans le pays de la prospérité, il existe néanmoins des pauvres. Et au cœur des villes surpeuplées, nombreuses sont les personnes qui souffrent de solitude. Nous pouvons nous joindre à la voix de celles et ceux qui prient, et notamment en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Et avec celles et ceux qui ont faim et ne disposent pas de quoi vivre dignement, nous prions, afin que chacune et chacun rencontre la générosité dans sa communauté. Avec celles et ceux qui sont maltraités d'une façon ou d'une autre, dont les domiciles, les lieux d'études ou le travail ne sont plus des endroits sûrs, mais des endroits qui font peur, nous prions. Nous prions pour que chacun soit libéré de cette peur et de ces agressions. Avec celles et ceux qui sont déplacés, qui vivent en exil et dans la crainte de perdre tout ce qui leur est familier, afin qu'ils soient accueillis et connaissent la paix et l'amour de Dieu dans leur vie, nous te prions. Et nous rassemblons toute notre prière maintenant, dans celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
le pain que nous partageons et communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce repas que nous avons partagé. Merci de nous avoir accueillis à ta table. Frères et sœurs, ce temps était le temps d'une halte, une halte à l'écoute d'une parole qui fait vivre, une halte au milieu de nos exils, une halte pour communier avec tous les exilés. Allez, allez dans votre vie avec cette parole et soyez porteurs de vie.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, qu'il vous apporte bonheur, discernement et joie pour le temps présent. Amen.
Et nous chantons à l'horizon « Le jour s'éloigne » qui est l'hymne de la Journée mondiale de prière des femmes. Alors...